Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Les Trois Chaînes. La nature et l'innovation pour votre bien-être.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah.
Bonjour Fabrice.
Déborah Ohana chaque semaine sur Nutri Radio pour ce qui est la dernière émission de la saison. Sachez-le, Déborah. Eh oui, il va falloir qu'on se quitte, qu'on se sépare, au moins le temps des vacances, pour éventuellement revenir en force à la rentrée. Vous n'avez toujours pas décidé là où vous allez partir en vacances, vous savez toujours pas?
Ah non, toujours pas.
C'est moi, pas. C'était soit les vacances, soit un bon resto. Quand je dis un bon resto, c'est une auberge le long de la route. J'ai pris l'autoroute, hop, petit resto routier, on est revenu avec les enfants. J'ai dit, alors les vacances? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ça a coûté quasiment aussi cher.
Oui, mais c'est pas une blague en réalité.
Non, je plaisante, mais je ris jeune. Mais bon, Déborah Ohana, donc dans ses émissions, tout va bien, mangeons. Déborah, est-ce que vous avez déjà fait une séance d'hypnose? Est-ce que vous êtes déjà faite hypnotiser, comme on
oui.
dit?
Oui.
C'est vrai? Et
je suis spécialisée en hypnose d'ailleurs.
Ah bah,
oui, j'utilise pas beaucoup, j'utilise beaucoup de l'hypnose conversationnelle plutôt. Mais oui, j'ai déjà été.
D'accord.
J'ai déjà été sous hypnose.
Parlez bien dans le micro. Non, mais je vous pose cette question parce que suite à l'émission de la semaine dernière sur le lâcher prise, le contrôle, on s'est dit, Déborah, elle est dans le contrôle à fond.
J'hypnose. J'hypnotise les patients.
Bien. En tous les cas, si vous voulez savoir de quoi on parle, eh bien, je vous invite à réécouter l'excellente émission de la semaine dernière qui est disponible donc en podcast sur nutriradio.fr dans la partie médias. Vous allez dans Tout va bien, mangeons. C'est la dernière qui est là en ligne. Donc, vous pouvez l'écouter. Cette semaine, nous allons parler avec vous des je fais attention à ce que je mange, des phrases qui cachent souvent, enfin, une phrase d'ailleurs, qui cache souvent une difficulté.
Et oui, ça revient un peu à ce qu'on parlait juste avant des personnes qui sont dans le déni. Parce que de nos jours, les personnes sont de plus en plus soucieuses de leur santé et essayent de prendre soin d'elles à travers leur alimentation en faisant attention à ce qu'elles mangent. Ou je me restreins pas, je fais attention à ce que je mange. C'est souvent une règle, une réflexion en fait que j'entends souvent en consultation. Et que j'ai entendu maintes fois, même en dehors de mes consultations. Et pourtant, cette phrase, elle cache une vraie perturbation du comportement alimentaire et donc indirectement une relation à l'alimentation perturbée. Et les personnes ne sont pas forcément conscientes que c'est perturbé. Parce que pour elles, dans leur tête, elles font attention à ce qu'elles mangent. C'est pour leur santé. Et donc, puisque progressivement, ces petites actions mises bout à bout peuvent mener vraiment à des troubles du comportement alimentaire de plus ou moins grande intensité. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un peu un point là-dessus, sur ces « je fais attention » qui en réalité sont vraiment néfastes, pour amener plus de clarté sur ce que c'est en réalité de prendre soin de soi à travers l'alimentation, tout simplement.
Eh bien écoutez, c'est une excellente initiative. « Je fais attention à ce que je mange ». Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase, mesdames, messieurs? Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a derrière cette phrase pour vous? Parce que oui, vous êtes nombreux à vous dire ça, à dire cela. On en parle dans un instant avec Déborah Ohana, c'est sur Nutri Radio.
La légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais, dans la campagne française, puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ses solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende, née de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des Trois Chaînes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chaînes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chaînes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troischaines.com.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Déborah Ohana sur Nutri Radio, tout va bien, mangeons. Alors, la phrase, mesdames, messieurs, je fais attention à ce que je mange. Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Est-ce que vous-même, vous l'avez déjà prononcée? Parce que cette phrase qui paraît un peu anodine, qui paraît un peu genre, ça va, je maîtrise, eh bien, elle cache souvent des difficultés.
Eh oui, malheureusement. Elle cache beaucoup de difficultés. Par exemple, quand on va dire « Non, mais je fais attention à ce que je mange, mais je ne me resserre pas. Je ne me resserre pas même si j'ai encore faim à la fin de mon repas parce que je fais attention à ce que je mange. » Ou même essayer de se persuader que ce que nous venons d'ingérer va nous suffire alors que nous savons pertinemment au fond de nous que c'est faux, comme si nous essayions de nous maintenir ou de rationaliser un peu nos prises alimentaires. Et par conséquent, c'est des restrictions volontaires sur les quantités qui se mettent en place progressivement et qui déséquilibrent nos apports énergétiques par rapport à nos réels besoins en quantité, hein, bien sûr. Puisque lorsque nous sommes en bonne santé, ça n'est pas notre mental, en réalité, qui connaît les quantités qui sont les bonnes pour nous, qui sont vraiment ajustées à nos besoins du moment, mais bel et bien notre corps. Donc, dès lors que nous faisons plus confiance à notre mental en excluant nos ressentis corporels, ben, ça ne peut pas fonctionner à long terme. Et donc, j'ai encore faim, mais je ne vais pas me resservir parce que je fais attention. C'est une restriction alimentaire. Et ces personnes, par exemple, vont se dire « Non, mais moi, je ne me restreins pas du tout. Je fais juste attention. » Ça ne va pas, en fait.
Ouais, mais alors, Déborah, moi, je suis désolé, mais je suis obligé de rebondir sur l'émission, sur le contrôle, où vous nous dites, la semaine dernière, des gens qui disent « il faut lâcher prise sur la nourriture. » Et vous étiez monté vent debout contre cette phrase en disant « Non, il faut contrôler. Le contrôle, c'est important. »
Oui.
Et là, vous dites « Attention, les restrictions alimentaires, non. »
Mais, et alors ?
Je suis perdu.
Qu'est-ce qui vous perturbe là, dans ce que je dis là, Fabrice ?
C'est-à-dire que là, vous dites que quelque part, il ne faut pas se mettre de restrictions alimentaires. Enfin, il ne faut pas se mettre une restriction alimentaire.
Oui.
Quelque part. Donc, il faut lâcher prise, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut se resservir. Vas-y, resserre-toi, Popole.
Mais on n'est pas dans le lâcher prise là. Je vous disais qu'en fait, le contrôle, c'était le curseur qui n'allait pas. Si on contrôle en se disant je vais restreindre. Le chemin n'est pas bon. Mais si je contrôle en me disant non, j'écoute plutôt mon corps, ben c'est du contrôle aussi. Mais le chemin est différent. Dans les deux cas, c'est du contrôle. Si j'ai mon mental qui me dit non, mais restreins-toi. Et je suis en train de me dire mon corps, je sais qu'en réalité, j'ai besoin encore. Je contrôle en écoutant mon corps. C'est un choix que je fais. C'est un peu plus clair.
Ben oui, c'est clair. Mais heureusement que vous êtes là. Vous savez, si vous m'expliquez bien, moi, je prends toutes vos informations comme ça à la volée. J'écoute d'une oreille et je fais tout et son contraire. Alors, je marche du pied droit et je marche du pied gauche.
Oui, c'est un peu complémentaire.
Mais
le non lâcher prise, ça serait de refuser. En fait, ça serait d'essayer de contrôler, par exemple, ça là, son ressenti alimentaire, de se dire non, c'est pas normal que j'ai encore faim. Je veux pas encore avoir faim. Et de ne pas lâcher prise là-dedans, d'essayer de contrôler ça, et ben effectivement, ce n'est pas possible, ça, puisque c'est physiologique. Et donc, les personnes qui parlent de lâcher prise, ça serait de lâcher prise sur ça. D'accord. Arrête d'essayer de contrôler, de ne plus avoir faim, parce que ce n'est pas toi qui as le contrôle là-dessus. Et là, on lâche prise, si vous voulez utiliser cette expression, sur ça, sur ce point précis, parce qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais sur les points où on a les pouvoirs, c'est important d'avoir du contrôle.
Très bien, bah écoutez, merci pour ces précisions. Et alors, ceux qui disent par exemple, bah moi je fais attention à ce que je mange en choisissant un fruit, par exemple, pour mes collations ou pour mes desserts, alors qu'en fait ça ne me suffit pas.
Oui, bah en fait c'est pareil, c'est du contrôle aussi, mais c'est un contrôle qui amène à quelque chose qui est néfaste. Parce que je choisis en fait un fruit pour mon dessert alors qu'un fruit ne va pas me suffire ou c'est quelque chose de différent que j'ai envie. C'est un contrôle qui va m'amener à des conséquences. Donc, même si, par exemple, on aime beaucoup ce fruit ou les fruits en général, dans ce contexte, ce choix, il est fait non pas par envie de manger un fruit, mais pour ne pas choisir un aliment qu'on va juger, entre guillemets, mauvais. Ça connote, en fait, une restriction sur les choix alimentaires par diabolisation alimentaire qui amène souvent à de l'obsession et à un mauvais cadrage de notre rythme alimentaire. Choisir un aliment différent de celui qui nous fait vraiment envie sur le moment amène souvent à une insatisfaction alimentaire que nous allons chercher à satisfaire ensuite par tous les moyens. Donc au final, nous pouvons nous retrouver à manger plus que si nous avions juste satisfait notre envie sur l'instant T. Et donc, ça bug à un moment donné. En réalité, c'est de la restriction.
Bah oui, c'est de la restriction, évidemment. Manger moins pour manger plus, travailler plus pour manger moins, je ne comprends rien. Alors on fait attention à ce qu'on mange en achetant plus d'aliments avec lesquels, en fait, on ne se contrôle pas du tout. Ça m'arrive la semaine dernière.
Oui, en fait, j'achète plus. En fait, c'est pas j'en achète plus, c'est j'en achète plus. C'est-à-dire que j'ai un problème avec du chocolat, et ben je décide de ne plus en acheter parce que je sais pas me contrôler en fait devant. Et en attendant, en fait, ça pourrait paraître fonctionnel et logique, hein,
ben
en
oui.
même temps ça.
Ben oui.
Moi, j'arrive pas à gérer devant le chocolat. J'en achète plus, comme ça, c'est le problème. Il y a plus de problème. En même temps, ce comportement valide un évitement du problème en mettant en place une restriction totale sur les achats alimentaires. En attendant, le temps qu'on ne les achète pas, ce chocolat, en fait, le travail pour réussir à se contrôler justement encore une fois devant ces aliments reste en suspens C'est comme si on fuyait le problème en réalité. On ne travaille pas sur le problème de manière générale. Donc après, cadrer les achats en limitant les achats peut tout à fait être convenable. Mais en achetant plus du tout, ça pose problème. Parce que le travail ne se réalise pas en esquivant la difficulté, mais bel et bien en se confrontant et en décortiquant ce qui se passe précisément à ce moment.
Alors là, par exemple, sur cet exemple très précis, je vois bien une espèce de métaphore de comparaison, pardon, avec l'amour. Vous aimez quelqu'un, vous êtes amoureux fou de la personne. Imaginons amoureux du chocolat, vous voyez ce que je veux dire, ce qui est totalement mon cas, ouais. Entre parenthèses. Donc vous êtes amoureux fou de cette personne, mais c'est mieux de ne plus la voir pendant un moment que de la croiser tous les matins.
Je pense que c'est un peu différent dans la relation avec une personne.
Oui, mon exemple est bidon, c'est ça.
En réalité, si on est amoureux fou d'elle, déjà, il y a un problème à ne plus vouloir la voir. Et je pense que ça dépend du contexte. Et du coup, ça va être plus simple peut-être d'essayer de se distancer. Alors après, c'est différent parce que votre exemple est différent.
Non, il est bon. Moi, j'adore le chocolat.
Cette personne, si en fait on veut plus du tout, on veut la sortir de sa vie. Effectivement, là, on va plus l'avoir. Mais le chocolat, le but, c'est pas de le sortir de sa vie, parce que vous allez forcément avoir des moments dans votre vie où vous allez être confronté avec le chocolat. Je sais pas, vous êtes invité chez des potes, il y a du chocolat devant vous. Vous êtes à un mariage, à un anniversaire, il y a du chocolat devant vous. Et ben, le risque dans ces moments-là, parce que vous avez passé votre temps à esquiver le chocolat, c'est de perdre complètement le contrôle et d'en manger à orgie, enfin d'en faire une orgie alimentaire, ce qu'on appelle des pulsions alimentaires. Donc avec une personne, je pense que c'est un peu différent.
Oui, on ne peut pas faire d'orgie.
Comment ? Vous voyez la différence ? Oui. C'est-à-dire que la personne, si vous êtes voué à un moment donné à la remettre dans votre vie, effectivement, donc on ne la voit pas pendant un temps, après on la voit progressivement, peut-être pour tempérer ses ressentis. Mais là, en fait, on parle de quelque chose, d'un aliment sur lequel on va être amené en fait à se reconnecter à cet aliment à un moment donné. Alors si c'est une collègue de votre travail, cette personne, et que vous êtes amené forcément à un moment donné à la revoir, alors que vous êtes fou amoureux d'elle, ça va être compliqué si vous ne la voyez plus du tout. C'est comme si vous esquivez la difficulté.
Je pars en vacances, vous voyez, je pars, je ne la vois plus. Et quand je reviens, le fait d'avoir été absent de moi, je me sens mieux, vous voyez. Est-ce que le chocolat... Parce que moi, je vous dis tout de suite, si j'achète du chocolat et qu'il est dans mon placard, je veux pas genre faire comme s'il n'était pas là. Et je sais qu'il est là, et donc forcément, boum.
C'est pas l'idée de faire comme s'il n'était pas là.
Ça craque.
L'idée, c'est de réussir, en fait. En réalité, la réussite, elle est là quand je suis devant ce chocolat, j'arrive à prendre la quantité purement nécessaire à mon besoin. Le jour où on arrive à faire ça, c'est qu'on a réussi à travailler sur notre comportement alimentaire.
Ah oui.
Et c'est tout le travail que je fais avec mes patients. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, parce que des fois, on peut avoir ce qu'on appelle l'externalité forte avec les aliments, et donc c'est difficile d'avoir ce contrôle. Donc, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Et de manière générale, quand on a une difficulté relationnelle avec un aliment, le but, c'est pas de l'esquiver totalement.
Très bien, vous avez raison. Oui, une fois qu'on sait,
ça va amener des conséquences.
On marque une toute petite pause et merci de prendre le temps de répondre à ces petites réflexions qui sont très personnelles, mesdames, messieurs. D'ailleurs, si vous voulez faire aussi vos réflexions, n'hésitez pas. Votre antenne, c'est votre antenne. Hein. Moi, je vous lis comme j'occupe l'antenne, puisque voilà, vous le faites pas, mais si vous voulez le faire, 06 66 94 59 02. Je le répète une troisième fois, le temps que voilà, je sais que maintenant vous avez pris un petit stylo, votre notez directement avec votre portable. Dans les nouveaux amis, c'est Nutri Radio dans le répertoire et le numéro c'est le 06 66 94 59 02. On est toujours en négociation avec Bouygues Télécom pour qu'il nous donne un meilleur numéro, mesdames, messieurs, pour qu'il soit plus facile à retenir. Sinon, un mail info@nutriradio.fr et puis encore plus simple, vous allez directement sur nutriradio.fr et vous remplissez le petit formulaire de contact. On marque une dernière pause, on se retrouve avec Déborah Wana.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Wana sur Nutri Radio.
Déborah Wana sur Nutri Radio pour nous parler aujourd'hui de cette petite phrase « Je fais attention à ce que je mange ». Et donc, que se passe-t-il après une fois qu'on a dit ça? Parce qu'en fait, on croit qu'on maîtrise et il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette petite phrase. Par exemple, je fais attention à ce que je mange en luttant contre ma faim.
Eh oui, pour ne pas manger trop ou trop souvent, car c'est jugé mauvais ou trop excessif, mentalement, alors je me prive de manger, même si j'ai un vrai besoin de faim qui se fait savoir. Cette restriction, en fait, calorique, en réalité, relevant d'une croyance datant de Mathusalem, qui est que lutter contre sa faim ferait maigrir, alors que la faim est le facteur déclenchant dans 80% des cas des pulsions alimentaires ou des compulsions alimentaires. Comme si ça serait mauvais d'avoir faim en réalité, alors que c'est un signal totalement naturel du corps humain. Les personnes qui ne ressentent jamais la faim sont souvent déconnectées de leur corps ou alors malades. Après, travailler sur sa faim permet aussi de nous adapter au contexte, car il peut tout à fait avoir des moments où nous avons faim, mais où on ne peut pas naturellement manger de façon involontaire. Si on a une réunion professionnelle qui se goupille et qu'on commence à avoir faim, on ne va pas s'absenter à la réunion professionnelle qui est peut-être très importante pour aller manger. Mais du coup, travailler sur sa gestion de faim permet de pouvoir anticiper un peu ces moments-là. Mais ça, c'est complètement une difficulté qu'on entend souvent en consultation.
Je fais attention à ce que je mange en ne mangeant plus du tout de féculents, de sucre, de fromage, etc.
Je fais attention à ce que je mange. Je ne mange pas trop de féculents ou j'en mange plus du tout. Alors ça, c'est encore plus fréquent de tout.
Parlez bien dans le micro, Déborah.
Ça, c'est vraiment très, très fréquent. Surtout dans notre société où les régimes fleurissent à chaque saison et où le plaisir est considéré comme quelque chose de mauvais, de néfaste. Ces restrictions sur un ou plusieurs groupes alimentaires déséquilibrent notre équilibre alimentaire et va perturber notre relation à l'alimentation en accentuant la réflexion que certains aliments seraient mauvais et donc à bannir. Rien que dans les publicités à la télé, vous pouvez observer très largement que le plaisir est mis en contraste avec un aspect négatif. Sur les pubs pour des barres de céréales, par exemple, ou autres friandises, pour ne pas citer de marque, vous pouvez avoir le contraste du PNNS qui est écrit tout en bas « Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour ». Sous-entendant, se faire plaisir en mangeant ces aliments-là, c'est mauvais, il ne faut pas. Vous voyez, en fait, il y a un contraste énorme, en fait, mental, une sorte de manipulation mentale. Seulement, même si les fruits sont mauvais en excès, ça n'est donc pas l'aliment qui a pointé du doigt, mais bien le comportement devant cet aliment. Donc en réalité, tous les aliments sont mauvais quand ils sont en excès.
Très bien. Je fais attention à ce que je mange. Je dis très bien parce que, vous savez, je poursuis un peu le fil conducteur. Parce que là, tout à l'heure, j'ai digressé. Je ne vais pas vous empêcher de faire votre émission. Donc je fais attention à ce que je mange en cadrant les quantités que je mange suivant des calculs caloriques très stricts.
Oui, bah ça c'est le classique. C'est le calcul de calories. En fait... Encore une fois, cela valide une restriction de l'apport énergétique, puisque celui-ci est calculé théoriquement sur ce qui va progressivement une base théorique, en fait. Et ça va progressivement nous déconnecter de nos signaux corporels et de nos besoins réels. Cette situation amènera à long terme à mettre en place, par exemple, des pensées permissives ou une perte d'autonomie et de spontanéité alimentaire. Vous savez, les pensées permissives, c'est « j'ai le droit, j'ai pas le droit ». Ou attention, là, j'ai plus le droit de manger cet aliment parce que si je le mange, je vais dépasser mon quota calorique. En fait, ça, c'est une perturbation énorme du comportement alimentaire. Et c'est très, très, très fréquent, surtout avec les pléthores là, d'applications qui sortent où vous rentrez le nombre de calories que vous mangez, ils vous sortent un détail global des macronutriments, etc. Ça vous amène à penser l'alimentation uniquement mentalement. Et uniquement théoriquement. Et c'est très important, je le rappelle d'ailleurs, vous ne pouvez pas en fait anticiper le nombre de calories que vous allez avoir besoin par jour parce que tout simplement, vous avez des besoins caloriques que vous ne pouvez pas prédire. Quand par exemple, vous ressentez une émotion de manière générale, ça vous prend de l'énergie calorique. Et donc ça, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir, par exemple, Fabrice, que demain, à 18h02 et 20 secondes, vous allez être énervé par tel ou tel sujet et que cet énervement va vous prendre telle quantité de calories. Ça, c'est imprédictible. Et donc, en fait, ce qui renvoie au fait que c'est pas du tout fiable, en réalité, ces calculs de calories théoriques. Ça peut être intéressant dans des difficultés très précises comme l'anorexie. Mais pas du tout sur monsieur, madame, tout le monde.
Vous avez parfaitement, parfaitement raison et ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, mais je ne vais pas raconter ça aux auditeurs parce que a priori ça ne les intéresse pas. Pour terminer, parlez bien dans le micro parce que ce dernier point c'est celui qui fera peut-être le plus réagir. Je fais attention à ce que je mange en ne mangeant plus entre les repas alors que je ressens la faim, mais il ne faut pas manger entre les repas, on me dit ça tout le temps. Ça veut dire quoi? Il faut manger entre les repas, je ne comprends plus rien.
La règle. Bah, en fait, il faut manger entre les repas s'il y a besoin. Retirer la collation pour respecter des injonctions infondées scientifiquement, comme le fait de grignoter ferait grossir, par exemple, ça, c'est pas validé scientifiquement. Ce cadrage sur un rythme alimentaire qui ne nous correspond pas et qui va donc générer des manques que notre corps va chercher à récupérer en plus grande quantité plus tard, bah, c'est néfaste. Il ne faut pas oublier non plus qu'une collation n'est pas un grignotage. C'est important de distinguer les deux. Un grignotage, c'est vraiment en continu. Une collation, c'est en une prise. Puisqu'elle se prend vraiment sur un temps de manière isolée. Et cette collation, elle est souvent très nécessaire pour travailler ce qu'on appelle sa gestion de faim. Contrairement au grignotage qui, lui... Alors, ça cache souvent quelque chose, le grignotage. D'ailleurs, on pourrait même faire une émission là-dessus. Mais ça ne va pas forcément participer à amener du rassasiement parce que c'est souvent des petites choses qui sont comme ça grignotées sur le long terme. Mais qui, plus est, prend quand même de la place dans l'apport énergétique. Mais donc, une collation, c'est super important. Donc, ne pas manger entre les repas, c'est pas du tout fondé, ça. Surtout que c'est très... le nombre de repas par jour, c'est très culturel. Il y a certains pays, en Thaïlande par exemple, ils mangent toutes les deux heures là-bas. Et c'est dans leur culture, ils n'ont pas de problème en fait avec le poids et avec l'image. Donc en fait, ça dépend de chaque personne, le nombre de repas.
Oui, évidemment. Mais donc vous dites que ce n'est pas validé scientifiquement quand il ne faut pas grignoter entre les repas, parce qu'on entend ça pour votre santé.
C'est pas validé. Ce qui n'est pas validé scientifiquement, c'est que grignoter fait grossir. En fait, grignoter ne fait pas grossir parce que quand vous grignotez, vous amenez un apport alimentaire. Et donc forcément, ça va participer indirectement à combler notre faim. Et du coup, ça va nous amener, si on est à l'écoute de nous, à manger moins au prochain repas, au vrai repas. Par contre, si on grignote toute la journée de manière automatique et qu'au repas, on mange aussi de manière automatique sans se poser la question sur nos ressentis alimentaires, là, effectivement, ça peut nous amener à de la prise de poids, parce que c'est de l'excès. Mais si on est connecté à soi, il n'y a pas de prise de poids qui se fait par le grignotage.
Très bien.
Spécifiquement.
Merci beaucoup, Déborah. Pour conclure.
Pour conclure, en réalité, faire attention à nos choix est important, à nos choix alimentaires. Mais lorsque ces choix sont trop mentaux et ne tiennent compte que du seul paramètre poids et ou santé, ça ne va pas. Dans une relation apaisée avec notre alimentation, l'équilibre se réalise, je le rappelle, entre le mental, le corps et le cœur. C'est hyper important. Sans une harmonie entre ces trois acteurs, la relation alimentaire est souvent perturbée. Donc, faire attention à ce que nous mangeons ne doit pas être synonyme de restriction et de lutte intérieure, même si l'amalgame est souvent fait et que tous les médias laissent à penser le contraire. Cela ne doit pas non plus générer des efforts insurmontables et des changements incompatibles avec notre vie de façon générale. C'est-à-dire que si on décide de faire attention et que pour ça, on doit s'arrêter de vivre et tout chambouler et notre vie sociale et notre vie personnelle et notre vie familiale, ça marche pas en réalité. Il faut que ça s'intègre dans notre vie comme quelque chose de naturel.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Déborah, c'était la dernière émission de cette année, de cette saison, ça vous
avec
fait rire
plaisir.
Ah bah ça vous fait rire, non, c'est une bonne nouvelle, ouais, ben dis donc, heureusement qu'on va pouvoir...
Je vous sens perplexe Fabrice, c'est pour ça.
Ben non, je ne suis pas perplexe, vous saviez ce que je fais en ce moment, si vous saviez, je suis en train là, je regarde par rapport à ce que vous m'avez dit, je fais des recherches en même temps, parce qu'à chaque fois que vous me parlez et que vous nous parlez, ben forcément on a envie d'en savoir plus, et donc c'est bien, parce que ça nous fait aussi travailler le mental, voyez-vous. Donc, j'allais dire, ces émissions sont disponibles, celle-ci par exemple, à partir de dimanche 18h, parce qu'il y a des gens qui disent, mais comment ça fonctionne? Ces émissions, là, vous nous écoutez peut-être sur le live, eh bien, elles sont rediffusées une fois dans la semaine, et ensuite, vous les retrouvez à partir du dimanche 18h, voilà, sur nutriradio.fr, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'était la dernière émission de la saison, on va se faire des petits best-of, des petits trucs, un machin, avec une nappe, un pique-nique, on va se faire un pique-nique d'émissions, là, jusque pendant les vacances, et puis on va se retrouver à la rentrée. Merci beaucoup, Déborah.
Avec plaisir, Fabrice. À bientôt.
C'est le retour de la musique. Et bonnes vacances, Déborah. Bonnes vacances à vous sur l'autoroute A13, A8, A1. C'est le retour de la musique tout de suite sur notre radio.
Tout va bien. Mangeons. Déborah Ohana sur Nutri Radio.